Céline Pinoche, vous avez un exemple de quelque chose qu'on croyait absolument certain en 1997 et qu'on a totalement changé en 2026.
Fort pour les enfants, podcast sur le bien-être des enfants avec Jonas Schneider.
Bonjour Céline Pinoche.
Bonjour.
Merci de venir dans ce podcast où on se pose une question clé. Comment est-ce qu'un pédiatre peut rester à jour pendant toute sa carrière? Vous, vous vivez cette question de l'intérieur. Vous êtes pédiatre installé en cabinet à Genève et vous êtes membre du comité de pédiatrie suisse dans lequel vous suivez justement les questions de formation. Peut-être une première question, quand on a préparé cet entretien, vous nous avez parlé de 1843. Qu'est-ce qui se passe en 1843 ?
En 1843, on a le premier textbook de pédiatrie écrit en Suisse, écrit en français. Donc le premier textbook français, mais suisse, pas français, qui a été imprimé par un jeune médecin qui s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes, enfin qu'il n'existait pas tellement de textbooks et qui a fait un recueil de toutes ces observations pour essayer justement d'aider les collègues à apprendre.
Un seul manuel pour tout savoir de la pédiatrie. Depuis, la science, la médecine et la pédiatrie sont énormément développées. Mm-hmm. Tout ça tiendrait dans autant de livres jusqu'à la Lune, aller-retour. Il y a une accélération de la recherche, une accélération de la connaissance que vous avez peut-être vous-même vécue. Alors pas depuis 1843, mais depuis 1997. C'est l'âge de votre diplôme, c'est juste ?
C'est ça, ouais.
Et qu'est-ce que vous avez constaté de différent entre 1997 et 2026 ?
Alors, il faut juste savoir, déjà, il y a le web qui a pris une grande place. On n'utilisait pas encore beaucoup Internet en 1997, on l'utilisait un peu, mais on n'avait pas Google comme meilleur allié ou autre, hein, mais on avait deux, trois moteurs de recherche. Et donc, les textbooks restaient la base de la connaissance quand on avait une question, quand on se posait... Oui, une question de pédiatrie ou de médecine. On avait un énorme bouquin de 4 kilos et on allait regarder dedans. Maintenant, le même bouquin existe toujours, mais il est sorti 2 mois plus tard. Il est déjà obsolète et j'ai même envie de dire qu'au moment de sa sortie, il est obsolète parce que le temps qu'on révise tous les papiers, enfin tout ce qu'il y a dedans, il y a déjà des nouveautés qui sont apparues et voilà. Donc ça reste des bonnes références pour des choses, mais la médecine est... Le développement des thérapies, des nouveaux, enfin de tout en médecine va tellement vite que ouais, tout s'accélère, effectivement.
Vous avez un exemple de quelque chose qu'on croyait absolument certain en 1997 et qu'on a totalement changé en 2026 ?
Par exemple, en 97, on était persuadé que il fallait faire très attention avec l'introduction de certains aliments de façon à pas potentialiser des allergies. Typiquement, l'œuf était fortement recommandé. Il était fortement recommandé de ne pas donner d'œuf avant l'âge de 1 an parce que on risquait d'induire des allergies chez les enfants. Il se trouve que quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était exactement l'inverse et que pour essayer d'éviter les allergies chez les enfants qui génétiquement pourraient avoir une prédisposition à cette allergie, il faut en fait donner, il y a une fenêtre d'introduction entre 4 et 6 mois qui permet, si on donne régulièrement des petites doses d'œufs ou de cacahuètes ou de certains allergènes, à ce moment-là, on prévient les allergies.
Et les antibiotiques ?
Les antibiotiques, c'est un autre chapitre. Et c'est là où je disais pas partout, parce que j'ai remarqué que certains pays avaient fait le pas, d'autres pas. On parle de l'angina streptocoque, la fameuse angine blanche, la fameuse angine pour laquelle tout le monde va toujours chez le médecin pour faire la distinction entre angina streptocoque ou pas. Mmh. En 97, on traitait. On avait peur des complications. On pensait que les antibiotiques allaient prévenir ces complications. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart des complications ne sont pas forcément prévenues par la prise d'antibiotiques. La guérison avec ou sans antibiotiques a une différence de 16 heures et quelques brouettes. Mais ouais. Enfin, c'est pas grand-chose.
Ouais.
C'est dérisoire. Et que, du coup, on peut se permettre de ne plus donner d'antibiotiques de façon systématique. Il faut aussi voir le patient. S'il va vraiment mal, on va faire les choses autrement. Mais donc, angina streptocoque n'est plus égale antibiotique.
Donc, emmenez-nous dans les coulisses de la vie de pédiatre, quand on a son diplôme en 1997, avec cet exemple de l'angine à streptocoque et le fait que les recommandations changent totalement, le savoir change totalement en 2026, comment est-ce qu'on fait pour se mettre à jour? Qu'est-ce qu'on a à sa disposition? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être totalement up-to-date?
Il faut être curieux. C'est la base. La plupart du temps, on est quand même affilié à ce que les Français appellent des sociétés savantes, ici Pédiatrie Suisse, qui est une société regroupant tous les pédiatres et dont un des rôles est de promouvoir justement la formation postgraduée, donc entre le diplôme et l'obtention du titre de pédiatre, parce que moi, mon diplôme, c'était pas en 97, c'était pas de pédiatre, c'était mon diplôme de médecin. Donc il y a toute cette formation, quand, une fois qu'on est médecin, mais on ne sait pas encore grand-chose sur le métier qu'on va vraiment faire. On sait certaines choses, mais pas toutes. Et puis, ensuite, il y a la formation continue. Pédiatrie Suisse est aussi garant d'une offre de formation continue avec un journal qu'on reçoit, si on fait partie de cette société, un journal qu'on reçoit régulièrement, une fois par mois ou 10 numéros par année, des congrès qui nous permettent évidemment de faire du réseautage, comme on appelle en Suisse, mais aussi de voir les nouveautés, d'avoir des nouvelles pratiques qui nous sont enseignées. Et voilà, donc l'offre, elle est là. Il n'y a pas que la Suisse, hein, il y a des congrès européens, il y a des congrès français pour la partie francophone, il y a des congrès autrichiens et allemands pour la partie germanophone et italien pour la partie italienne de la Suisse. Il y a les congrès européens, il y a les congrès mondiaux, il y a des congrès surtout, il y a ceux de pédiatrie générale, il y a ceux des adolescents, il y a ceux de... Et vraiment, on a une obligation de faire un certain nombre d'heures et de prouver qu'on a fait des heures.
Combien d'heures dans l'année doivent être consacrées à la formation quand on est médecin?
C'est des dizaines d'heures. Mais une certaine partie de ces heures sont considérées si on dit, voilà, j'ai lu des articles, j'ai lu les journaux que je reçois, et certaines heures n'ont pas besoin d'un certificat. Dans les congrès, on reçoit quand même un papier qui dit qu'on a participé à ce congrès et qu'on c'est valable pour 16 heures. Enfin, il y a deux façons de faire. On peut soit tout envoyer année après année au secrétariat de pédiatrie suisse pour avoir cette reconnaissance, disant, voilà... Un tel a bien suivi, a eu tous ses points de formation continue. Et parfois, on se fait attraper au sort et on doit prouver. Si on ne fait pas cette autodéclaration spontanée, on peut se faire piocher pour rendre des comptes, pour être sûr qu'effectivement, on suit bien et on a bien été à tous les congrès qu'on devait avoir.
C'est vérifié aussi, j'imagine, pour minimiser les différences entre pédiatres, parce que quand on va consulter un pédiatre, on ne sait pas forcément qu'est-ce que fait ce pédiatre en particulier pour se tenir à jour. Est-ce qu'il y a une différence dans les traitements qu'on va recevoir, de manière générale, de la part d'un médecin, en fonction de l'année de son diplôme, en fonction de si c'est un vieux médecin, entre guillemets, ou un jeune médecin, entre guillemets?
Ça dépend. Ça dépend des pédiatres. J'ai envie de vous dire qu'il y a, vous avez des personnes qui croient plus en, je sais pas, l'homéopathie et qui auront tendance à avoir plus étudié ce parti-là et puis qui ont leur diplôme même date qu'un autre qui, lui, n'y croit pas du tout. Et donc, les chemins sont pas forcément toujours les mêmes. Et tout dépend aussi de la curiosité des personnes. Normalement, on devrait ne pas avoir de grandes différences. Ensuite, on sait qu'il y a des circuits mémoire qui font que ce qu'on apprend quand on est jeune reste probablement mieux et plus ancré que ce qu'on continue d'apprendre après. Donc, ça dépend tout si le médecin a le temps de réfléchir ou pas, je pense. Aussi.
Qu'est-ce qu'on apprend d'autre comme médecin? Parce que là, on est resté très centré sur le savoir scientifique, les traitements, les textbooks, mais il y a d'autres compétences qu'il faut avoir en tant que médecin, peut-être même surtout en tant que pédiatre. C'est quoi ces compétences et comment est-ce qu'elles peuvent se développer?
Compétences humaines, compétences relationnelles. Avant, ça se développait vraiment, on vous jetait dans la fosse aux lions et puis c'était à vous de vous débrouiller avec des personnes en face, des parents, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez le pédiatre, il y a ce triangle avec le pédiatre, l'enfant et les parents, et que parfois c'est pas l'enfant qu'on soigne ou qu'on traite, c'est aussi les parents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prend aussi en soin les parents, parce que sans eux, l'enfant va nulle part et qu'on a besoin d'eux. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qui demande probablement des compétences humaines différente de juste la simple relation médecin-patient sans triangle.
Comment ça s'entraîne, ça ? Comment est-ce qu'on reste à jour, entre guillemets, ou très capable dans ces skills-là, dans ces capacités-là ?
Alors ça, je pense que les personnes qui sont les pédiatres installés restent à jour parce qu'ils voient passer tous les jours des familles et des familles et des familles et qu'on ne peut... Je l'espère que s'améliorer dans ses relations sociales tout au long de la vie, c'est l'expérience qui fait qu'on apprend à décoder des petits signes que peut-être plus jeune on ne notait pas, dans un visage qui se ferme quand on parle d'un certain vaccin ou le soulagement quand on dit que l'antibiotique n'est pas nécessaire, ce genre de choses. Les études de médecine ont fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là, donc avant même qu'on parle de formation continue, pour justement essayer de mettre en avant toutes ces skills sociaux avec des jeux de rôle. Les examens maintenant sont de plus en plus en jeu de rôle avec des patients standardisés. Donc pendant tout son cursus, en tout cas en Suisse, l'étudiant va être amené à interagir, à se voir filmer, à devoir débriefer de comment est-ce qu'il a interagi, ce qui n'existait évidemment pas quand moi j'ai fait mes études de médecine.
On a ajouté beaucoup plus de simulations avec aussi parfois des nouvelles technologies. Alors le comédien n'est pas une nouvelle technologie, mais il y a aussi de la simulation virtuelle.
On a plein de types de simulations différentes, mais la base de la simulation, c'était vraiment venu de l'aviation, avec comment est-ce qu'on interagit en équipe et comment voir l'interaction au sein de d'une même équipe au sein d'une unité, ou alors dans des situations catastrophes, de personnes qui ne se connaissent pas, un ambulancier et un médecin qui arrive sur place, comment est-ce qu'ils arrivent, alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, comment est-ce qu'ils arrivent à interagir de façon à sauver la vie du patient. Donc c'était vraiment plutôt, c'est pas tellement pour savoir « bonjour madame, comment ça va ?» c'est vraiment comment on arrive à travailler toutes ces interactions. Mais c'est aussi en fait des skills.
Il faut être une bête sociale pour être médecin ?
Bonne question, je crois pas que je sois une bête sociale, je pense qu'en tout cas il faut quand même être relativement à l'aise avec les personnes, ou alors il faut jouer un rôle tout le temps.
Dans la plupart des professions, on s'appelle entre soi pour se demander des conseils, d'un cabinet d'avocat à l'autre. Est-ce que ça existe aussi dans la pédiatrie et dans la médecine ? Est-ce que vous appelez parfois des consoeurs et des confrères ?
Oui. Tous les jours.
Oui.
Tous les jours. J'ai la chance de partager les locaux de mon cabinet avec deux autres pédiatres et il n'y a pas un café qui se passe sans qu'on pose une question à l'autre. Ça nous arrive même de sortir de consultation pour aller toquer à la porte de l'autre pour lui poser vite une petite question. Ou alors on a tous nos réseaux, mais des groupes WhatsApp de copains pédiatres, genre j'ai vu un truc bizarre, blabla. Et on se stimule, on entretient notre curiosité et on se pose des questions aussi comme ça, évidemment.
Une question plus sensible. On parle beaucoup du savoir, de l'apprentissage du pédiatre ou de la pédiatre, mais c'est oublier qu'entre le pédiatre et son patient, il y a ce fameux triangle. Donc, il y a les parents et il y a les connaissances des parents, donc les connaissances du grand public. Pas facile d'être un pédiatre et d'aller contre les fausses croyances du grand public. L'exemple des antibiotiques, là, est assez bon. Si les parents ont l'impression qu'il faut absolument des antibiotiques, ce sera très difficile pour le pédiatre d'appliquer un traitement qui n'est pas dans le sens de celui que les parents imaginaient comme le bon traitement. Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a une trop grande disparité entre ce que c'est la science et ce que c'est le grand public sur la pédiatrie ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une énorme disparité. Je pense juste que ça dépend tout ce que, à quel point les parents veulent être partenaires ou pensent savoir. C'est plus une question de personnes qu'une question de ce qu'on trouve comme information. Des informations, vous savez comme moi que on peut mettre n'importe quoi, on va trouver tout et son contraire sur un sujet. Donc ça dépend comment ils approchent l'information auquel ils ont accès. Par rapport à cette situation d'angine, j'ai un ami qui a été dans un centre d'urgence à Genève avec son fils, et en fait qui avait effectivement une angine, et le centre d'urgence en avait tellement pas marre, parce que je crois pas que ce soit, on n'a pas marre, mais afin d'essayer de gagner du temps, il a imprimé des petits flyers sur ce sujet, distribué, et dès que la personne arrive en disant « mon fils a mal à la gorge », on donne le flyers, ou alors à la sortie, on donne le flyers en expliquant vraiment pourquoi est-ce que je n'ai pas donné des antibiotiques, et quelles sont les évidences, et voilà. Ensuite, tout dépend. Moi, ça m'arrive de voir des patients quand je fais des gardes à Genève. Mm-hmm. Ce ne sont pas mes patients. Je ne les connais pas. Je ne les reverrai probablement jamais. Ils ne me connaissent pas non plus. Et là, c'est plus compliqué de leur vendre un truc s'ils venaient vraiment pour avoir le test et les antibiotiques si le test était positif. C'est plus compliqué de leur vendre que, en fait, non, ça a changé. Parce que, en plus, le pédiatre, le leur, n'a peut-être pas encore adhéré à ces recommandations qui sont assez récentes, et donc a traité une angine à streptocoque il y a 3 mois avec des antibiotiques. Donc ça, c'est compliqué. Il faut soit prendre plus de temps et essayer de convaincre, soit parfois on baste en se disant, ben voilà, je vais quand même donner les antibiotiques, parce que sinon, de toute façon, il va trouver quelqu'un d'autre qui va encore aller consommer d'autres urgences pour avoir ce qu'il veut. Quand ce sont mes patients, je prends le temps d'expliquer. Ils me connaissent, ils savent que ça fait X années que je m'occupe de leur enfant et que ça se passe bien, et donc c'est plus facile.
On entre dans une dimension presque philosophique qui est celle de la confiance qu'on mm-hmm. a dans le professionnel de santé en l'occurrence. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les patients aient davantage confiance, pour nourrir ce lien de confiance ?
Expliquer. Je pense que vraiment tout passe par l'explication de pourquoi je fais certaines choses. Le non-jugement. C'est pas toujours facile, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais les personnes qui sont persuadées que les vaccins sont mauvais ou dangereux, il faut essayer de leur présenter les évidences dans lesquelles on a des preuves, mais c'est pas facile parce que le problème, c'est compliqué de dire qu'un vaccin est complètement safe parce qu'il y a... La première année de vie, c'est la première année où on donne énormément de vaccins. Et c'est pendant cette première année où on peut voir, par exemple, qu'un enfant commence à présenter des traits autistiques. C'est de la coïncidence. On n'a jamais réussi à démontrer qu'il y a vraiment un autisme lié au vaccin. Mais comme c'est de la coïncidence, les gens ne vont pas vous croire. Donc c'est compliqué de démontrer certaines choses qui sont juste circonstancielles, en fait.
Est-ce que vous osez dire « je ne sais pas, il faut que j'aille chercher ». Tiens, je vais me renseigner, ouvrir un livre ou aller sur l'ordinateur pendant la consultation pour dire, ben tiens, allons chercher ensemble parce que j'ai pas les infos.
Bien sûr, heureusement, parce que sinon, de nouveau, il y a des parents qui me demandent ce que je pense de tel traitement homéopathie. Je n'ai aucune idée, je ne peux pas. Je peux pas vous aider. Ou alors, attention, je suis allergique à tel médicament. Bon, bah alors, il faut que je change. Ou bien alors, une éruption. Ça... Je ne sais pas vous dire ce que c'est, je peux vous dire que c'est pas grave, mais on est obligé d'admettre qu'on sait pas, ça va pas.
Et qu'est-ce que ça a comme effet sur la famille, sur les patients ?
Bah, tout dépend ce que vous proposez comme solution. Si vous dites juste « je sais pas », bonne journée, c'est pas la même que si vous dites « je ne sais pas », mais on va regarder, je ne vous oublie pas, je vais demander à mes collègues, je vais me renseigner en attendant. Voilà la marche à suivre, on se rappelle demain, on se rappelle plus tôt si jamais, je suis à disposition, et puis on a un plan. Je pense que c'est pas tellement la réponse, alors parfois il y a des gens que ça frustre de pas avoir de réponse, mais je pense que c'est toujours mieux de savoir qu'on n'a pas de réponse en étant accompagné que d'avoir une réponse et ensuite une porte qui se ferme.
Merci Célina Pinache.
C'était Fort pour les enfants, podcast sur le bien-être de l'enfant, avec Jonas Schneider. Le podcast de Pédiatrie Suisse est disponible sur toutes les plateformes de podcast courantes. Pour plus d'informations sur Pédiatrie Suisse et sur cet anniversaire, rends-toi sur paediatrischweiz.ch.